Midi 1. Mariam, Matin Famille.
Allez, nous sommes toujours ensemble, évidemment, sur Midi 1 Afrique, sur Midi1.com également. Et tous les entretiens de cette émission sont à retrouver sur notre site Midi1.com. Je l'annonçais en tout début d'émission, ce matin on parle également de troubles paniques et d'agoraphobie. Alors lorsqu'on craint les lieux publics, quand on est incapable d'aller au marché ou tout simplement assister à un spectacle, nous sommes peut-être face à une agoraphobie. Alors dans certains cas, elle est associée aux troubles paniques. Une prise en charge reste primordiale. Et avec nous, pour en parler ce matin, il est avec nous en direct depuis Casablanca, Dr Atman Lorabi. Bonjour.
Bonjour à vous, Myriam. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Midi 1.
Merci beaucoup à vous de répondre présent, comme tous les jeudis matins, sur cette émission.
Moi qui vous remercie.
Alors, vous êtes spécialiste, je le rappelle, en psychiatrie. Vous êtes secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. D'abord, comment est-ce qu'on pourrait définir l'agoraphobie quand elle est associée également aux troubles paniques?
Alors, il y a effectivement deux définitions que je vais vous proposer. D'accord. La première étant basée sur l'étymologie. Agoraphobie, étymologiquement, ça veut dire la peur du peuple, enfin de la foule. Et assez classiquement, on a tendance à imaginer que l'agoraphobie, en langage courant, entre guillemets, ça correspond à quand on panique dans les foules. Mais seulement, d'un point de vue médical, en fait, c'est une définition beaucoup plus vaste que ça, parce que sur le plan médical, on va définir l'agoraphobie comme étant une peur ou une anxiété marquée qui va survenir dans plusieurs types de situations. Hein. Alors, évidemment, il y a la notion d'être dans une foule ou dans une file, ça c'est parmi l'un des critères, ouais. Mais pas que. Il y a aussi la peur dans les transports en commun. On va citer notamment la peur dans l'avion, qui peut être quelquefois prise à tort pour une phobie de l'avion spécifique. Il va y avoir aussi la peur des endroits fermés, hein, les endroits clos, et que plusieurs personnes vont parler à tort là aussi de claustrophobie. Ouais. Il y a aussi la peur des lieux ouverts, hein, c'est-à-dire les lieux qui sont extrêmement grands, comme un grand parking, surtout quand c'est vide, etc. Oui, absolument. Et puis, il y a surtout quelque chose qui revient très très souvent dans les critères diagnostiques que je retrouve systématiquement auprès des patients qui en souffrent, c'est la peur de sortir seul. Alors, ça, c'est vraiment, je vous ai livré les critères diagnostiques. Et en fait, la peur qui survient dans ces situations-là, c'est la peur de ne pas pouvoir trouver secours ou de pouvoir s'enfuir au cas où on est pris par des symptômes embarrassants ou incapacitants. L'attaque de panique en fait partie. Là, c'est par rapport justement au fait qu'on associe le diagnostic d'agoraphobie au trouble panique, ce qui n'est plus le cas dans les nouvelles classifications en fait psychiatriques. On a fait la distinction entre l'agoraphobie et le trouble panique, parce qu'avant, on disait que l'agoraphobie ne pouvait arriver que quand il y avait un trouble panique. Or, la réalité des choses fait que on peut observer des agoraphobies sans qu'il n'y ait eu d'attaque de panique, notamment quand on a été exposé, là ça fait partie des facteurs de risque, par exemple quand on va vivre un traumatisme, un psychotraumatisme sur la voie publique, un accident de la route par exemple, ce genre de choses, on peut développer par la suite une authentique agoraphobie. Hein, donc ce n'est pas obligatoirement lié à la survenue de ce qu'on appelle une attaque de panique, à savoir la survenue brutale de symptômes extrêmement intenses de peur et des symptômes physiques, donc avec l'idée qu'on est en train de mourir ou en train de devenir fou. Ça, c'est la définition de l'attaque de panique.
Justement, vous avez parlé de facteurs de risque. J'allais y venir. Quels seraient ces facteurs de risque? Ces personnes à risque, on va dire.
Alors, il y a super, parce que quand vous dites personne à risque, j'ai envie de vous dire, c'est d'abord toutes les personnes qui ont des tendances anxieuses, hein, c'est-à-dire des personnes qui sont extrêmement prudentes, toujours dans la précaution, toujours dans la prévoyance, etc. Et quand on va parler de facteurs de risque autres, qui sont pas liés à la personnalité, j'avais cité la notion de traumatisme, on peut aussi trouver la notion d'une phobie simple, c'est-à-dire quelqu'un qui a authentiquement une claustrophobie, par exemple, et puis qui va se transformer à l'occasion d'une aggravation, d'une comorbidité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se surajoute, qui peut se transformer, donner une agoraphobie en plus. Ça, c'est parfaitement possible. Donc, et les personnes à risque, quand je parlais de personnes anxieuses, c'est aussi les personnes qui sont dans le stress permanent, dans la routine quotidienne, où il y a beaucoup de sédentarité, donc c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'activité physique. Ça aussi, c'est un profil qui revient assez souvent dans la survenue de l'agoraphobie.
Très bien. Alors, en termes de diagnostic, alors vous en avez parlé, comment traiter maintenant ? Est-ce que ça se traite facilement ?
Alors, ça se traite relativement facilement. Alors, le diagnostic est assez simple, comme je vous disais. Il y a un certain nombre de critères qu'on considère et qu'il faut cocher, quoique quelquefois on peut avoir des choses un peu différentes, hein, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas dans les critères, mais qui y ressemblent fortement. À titre d'exemple, quand on parlait de peur de sortir tout seul, j'ai déjà eu à traiter des personnes qui arrivaient à sortir toutes seules, mais à condition que ce ne soit pas trop loin d'une clinique, par exemple, ou d'un hôpital. Vous voyez, ça nécessite quand même de bien replacer les choses dans leur contexte. Et quelquefois, il y a des difficultés, comme assez souvent, on peut avoir quelqu'un qui éprouve de grandes difficultés à conduire sur autoroute. Ça peut correspondre justement à une agoraphobie qui est en train de commencer. Donc le diagnostic, certes, il y a les critères, mais toutes les situations où, de manière un peu exagérée, dans des situations où on est un peu loin de chez nous, on commence à avoir des peurs, ça peut être quelque chose en lien avec l'agoraphobie. Alors, les questions de traitement, le meilleur traitement, c'est la psychothérapie est associée à un traitement. Le traitement va juste servir à un petit peu diminuer l'intensité des symptômes physiques qui peuvent être d'intensité panique, justement quand on va sortir un peu plus loin de chez nous, ou quand on va sortir justement, enfin, ou quand on va être dans une foule ou dans une situation phobogène. Et en fait, la psychothérapie va surtout travailler au fait de se réapproprier les endroits qu'on ne peut plus fréquenter de manière progressive, hein, et en même temps d'arriver à discuter, de comprendre pourquoi est-ce que cela nous arrive, qu'est-ce qu'il y a réellement en jeu, pourquoi est-ce qu'on pense forcément à la mort à ce moment-là, enfin ce genre de considérations. Mais de manière assez générale, la psychothérapie a une excellente efficacité sur ce genre de troubles.
Très bien. Alors, les risques maintenant, si ce n'est pas traité, comment la maladie peut-elle évoluer ?
Alors, c'est une question très intéressante, parce que on pourrait se dire, bon, c'est une agoraphobie, ça n'a pas l'air bien méchant. Bon, à la limite, pourquoi se faire traiter ? Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que chez les personnes qui ont ce genre de troubles, on parle d'une notion de périmètre de sécurité, c'est-à-dire que les personnes qui n'arrivent pas à sortir seules de chez elles, bon, le plus souvent, ça commence par des endroits un peu éloignés du domicile, etc. Mais après, il y a une espèce de rétrécissement, hein, de ce périmètre-là, justement, si bien que la personne commence à éprouver des difficultés, des fois même à 20 mètres de chez elle, sans exagérer. Et donc, on peut imaginer l'impact pour quelqu'un qui travaille, par exemple, qui a une activité professionnelle, qui doit s'éloigner, qui a un boulot de commercial, etc. Enfin, l'impact est certain, par exemple, sur le plan professionnel. En termes aussi de complications, on va parler de comorbidité, c'est-à-dire l'apparition d'autres maladies du fait de cette agoraphobie. Et les comorbidités les plus fréquentes, on va citer la dépression, parce que c'est un stress quotidien supplémentaire qu'on doit vivre, hein, de gérer nos déplacements, de gérer nos peurs exagérées, eu égard des situations qu'on doit affronter. Et donc, il y a une dépression avec tout ce que ça peut impliquer en termes de souffrance et en termes de retentissement sur la vie familiale, personnelle et professionnelle. Il y a aussi les comorbidités addictives. C'est-à-dire que assez souvent, malheureusement, les gens, pour arriver à gérer cette anxiété exagérée, vont se tourner vers des substances qui vont les calmer. Bon, mais le plus souvent, qui vont occasionner des addictions. Et c'est ainsi que, relativement souvent, quand on a quelqu'un qui vient se faire traiter pour une addiction, on peut retrouver ce genre de pathologie préexistante. Hein, et en termes de comorbidité, ben il peut y avoir l'ajout ou plutôt l'aggravation avec l'apparition d'autres troubles anxieux, notamment qu'il y ait une phobie sociale qui commence à apparaître, c'est-à-dire que la phobie sociale à ce moment-là, c'est vraiment au niveau de l'interaction avec les gens, avec aussi tout ce que ça peut entraîner comme nouvelle comorbidité et nouvelle souffrance.
Très bien. Alors comment est-ce que l'entourage peut-il aider ? On y revient toujours à cet entourage dont le rôle reste assez important.
L'entourage, c'est que très très souvent, les personnes qui souffrent d'agoraphobie ont une personne contraphobique, c'est-à-dire une personne qui va leur permettre justement de lutter contre cette quasi-impossibilité de sortir seul et d'aller faire les démarches, voir le médecin, etc., ce genre de choses. Donc il y a une dimension, on va dire, de soutien moral pour la personne qui en souffre, mais en même temps, c'est quelque chose qui ne rend pas forcément service à la personne, dans le sens où tant qu'on arrive, nous, quand on a une agoraphobie, tant qu'on arrive à s'en accommoder avec l'usage de quelques artifices, et parce que quelquefois on a beaucoup de peur justement relative au fait d'aller consulter un psychiatre ou ce genre de choses, et ben c'est quelque chose, cette interaction ou plutôt cette dynamique d'avoir une personne contraphobique va peut-être quelquefois retarder la prise en charge. C'est dans ce sens que je l'évoque. Et donc le rôle de l'entourage, il est un peu compliqué dans le sens où il faut fournir le support nécessaire, parce que c'est ce qu'on ferait nous tous vis-à-vis de nos proches, mais en même temps il faut qu'on fasse attention à ne pas trop en faire et participer à la prise de conscience qu'il y a un trouble et qu'il faut absolument aller consulter.
Absolument. Alors vos conseils pour finir, docteur Atman Lorabi, je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie, vos conseils à toutes ces personnes qui se reconnaîtront donc et qui souffrent justement d'agoraphobie.
En fait, quand l'agoraphobie est assez sévère, il faut consulter. Ouais. C'est quelque chose qui se traite très bien et l'impact, eu égard de l'impact extrêmement négatif, la qualité de vie s'en trouve grandement améliorée quand on consulte. Pour les gens qui souffrent d'une espèce d'agoraphobie un peu partielle ou débutante, il faut absolument garder en tête que justement, il faut aller confronter un petit peu ces peurs, si elles sont légères. Oui. Il faut se retrouver dans ces situations. Je pense notamment aux personnes qui ont un peu l'appréhension des parkings souterrains, des petites choses comme ça qui sont dans la vie quotidienne. Il faut essayer justement de garder en tête il faut se confronter des situations que notre tête identifie comme étant dangereuses, mais qui ne le sont absolument pas. Et justement, la meilleure manière de se débarrasser de ce genre d'idées, c'est d'arriver à confronter
cette confrontation. Merci beaucoup, docteur Atman
Lorabi.
Vous êtes spécialiste en psychiatrie. Vous êtes également secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. Vous étiez avec nous en direct depuis Casablanca. Merci encore une fois.
Au plaisir.
Et à très bientôt. C'est un entretien réécoutable sur notre site, medien.com.